18h, c'est l'heure du journal. Bonsoir Tara Schlegel.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Pas de défilé jeudi prochain dans la capitale, c'est en tout cas le souhait de la préfecture de police et du ministre de l'Intérieur. Les syndicats sont contre, ils veulent maintenir leur mouvement. Explication dans un instant avec Anne-Laure Chouin. Dans cette édition, nous reviendrons aussi sur la primaire à gauche. Qui pour se porter candidat face à François Hollande s'il accepte les règles de cette nouvelle compétition? Analyse de Frédéric Seiss. En cette journée mondiale des réfugiés, nous irons dans un CADA, un centre d'accueil qui héberge des demandeurs d'asile en France, à Porcheville, dans les Yvelines, et puis à l'étranger, toujours l'Italie, avec la progression partout du mouvement 5 étoiles lors des élections d'hier. Matteo Renzi a perdu Rome et Turin. Nous serons en direct avec notre correspondante Mathilde Imberti. 18h20 du Grain à Moudre, avec vous Hervé Gardette.
L'État islamique a-t-il encore besoin d'une armée pour frapper? Nous allons discuter avec Anne-Clémentine Larocque, Wassim Nasr et Jean-François Daguzan.
À tout à l'heure. S'il y a de la casse jeudi prochain, eh bien ce sera la faute des syndicats. Voilà le calcul que fait visiblement le gouvernement, bien décidé à faire peser sur les épaules des manifestants tout éventuel dérapage. On le sait depuis les violences commises mardi dernier. Manuel Valls a pointé l'ambiguïté du service d'ordre de la CGT. Et aujourd'hui, bonsoir Anne-Laure Chouin, aujourd'hui donc le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve affirme qu'il n'est pas envisageable qu'il y ait une manifestation dans Paris cette semaine.
Une mise en garde écrite dans une lettre au leader de la CGT et le bras de fer n'est donc à cette heure toujours pas tranché. Petit résumé des épisodes précédents. Après la manifestation de mardi dernier et les violences qui l'ont émaillé, la CGT et le gouvernement se sont accusés mutuellement de ne pas avoir su ou voulu les empêcher. Avec d'un côté François Hollande et Manuel Valls menaçant d'abord d'interdire les manifestations avant d'encourager les syndicats à annuler eux-mêmes les cortèges. De l'autre, Philippe Martinez se demandant pourquoi les forces de police arrivaient à retrouver en moins de 48 heures des hooligans russes et laisser sévir des casseurs pourtant identifiés. Une polémique réactivée ce week-end. Quoi qu'il en soit, dès jeudi, l'intersyndicale transmettait sa demande d'une nouvelle manifestation à la préfecture de police de Paris. Un cortège prévu pour être plus court que d'habitude entre Bastille et Nation en évitant les grands magasins. La préfecture de police donnait ce matin une réponse en forme de demande que le cortège soit statique, en clair qu'il se transforme en simple rassemblement afin de mieux encadrer la manifestation. À l'heure qu'il est, les syndicats ont refusé. Ils estiment que tant que le défilé n'est pas interdit, il est autorisé. Et de fait, pour l'instant, aucune interdiction formelle ne leur a été opposée. Mais on imagine que la situation pourrait évoluer après la mise en garde ministérielle. Et déjà sur les réseaux sociaux, plusieurs idées d'action statiques mais bloquantes commencent à émerger.
Anne-Laure Chouin, merci. Puis un autre rassemblement est prévu le 28, c'est également à l'appel de l'intersyndicale. On n'y croyait pas vraiment, mais c'est maintenant acquis. Depuis le vote samedi du Conseil national du Parti socialiste, il y aura bien une primaire à gauche, primaire ouverte, explique le PS aux acteurs de la Belle Alliance, socialistes, radicaux, écologistes pro-gouvernement, et ouverte aussi, c'est en ces termes-là que l'ont voté les militants du Parti socialiste samedi, ouverte à tous ceux qui soutiendraient la démarche. Alors on imagine que les candidats vont se bousculer pour tenter de détrôner le chef de l'État. François Hollande n'a pas encore annoncé sa candidature à la candidature, mais on le voit mal reculer devant les primaires. Frédéric Seiss, bonsoir. Alors question Frédéric, qui va aller braver le président de la République s'il décide de se lancer dans ces primaires prévues, on peut le rappeler, fin janvier?
Oui, c'est une question que beaucoup se posent à la gauche du PS. Ne pas se présenter à la primaire, ce serait se renier, car l'aile gauche réclame la primaire depuis des mois. Mais se présenter trop nombreux, ce serait finalement éparpiller les voix et faire le jeu de François Hollande. Alors parmi les historiques de l'aile gauche, Marie-Noëlle Lienemann et Gérard Filoche figurent déjà sur la ligne de départ. Ils font de la critique de la politique antisociale, je cite, le moteur de leur candidature. Benoît Hamon laisse dire qu'il est intéressé. Arnaud Montebourg, lui, pose ses conditions. Il veut une primaire loyale, avec un nombre de bureaux de vote suffisant, ouverte à tous et qui ne soit pas réservée aux candidats qui soutiennent le gouvernement. Voici en tout cas les conditions résumées par l'un de ses proches, Laurent Baumel. Comme beaucoup de candidats potentiels, l'ancien ministre du redressement productif craint par-dessus tout une manœuvre d'appareil fomentée par François Hollande et Jean-Christophe Cambadélis pour relégitimer le président sortant. D'autres candidats sont déjà déclarés, comme François de Rugy, député écologiste passé chez les socialistes, comme en 2011, le parti radical de Jean-Michel Baillet devrait aussi réussi à voir son candidat. Les autres partis de la gauche ont décliné. Pas question de participer à une primaire avec François Hollande, dit-on chez les communistes. Même tonalité chez Europe Écologie Les Verts. Jean-Luc Mélenchon, lui, est déjà en campagne. Il faut dire que le calendrier défini par le PS semble taillé pour François Hollande. Avec un vote fin janvier, il sera en effet très difficile pour un petit candidat de collecter ensuite les 500 parrainages nécessaires.
Frédéric Saïs, merci. Alors le scénario est à peine plus clair à droite. Là aussi, des primaires sont annoncées depuis plus longtemps, il faut quand même le dire, mais sans l'un des principaux intéressés. Bonsoir Stéphane Robert.
Bonsoir Tara.
Nicolas Sarkozy, puisque c'est lui, hein, il laisse planer le suspense quant à sa candidature aux primaires. On imagine qu'il ira vraisemblablement se mesurer à Alain Juppé, François Fillon, Bruno Le Maire, pour citer trois challengers sérieux. En réalité, il y a déjà pléthore de candidats, mais pas de femmes. Et Michèle Alliot-Marie, qui brigue le fauteuil présidentiel, a même laissé entendre, Stéphane, qu'elle allait sauter la case des primaires.
Oui, elle est d'abord et avant tout candidate à l'élection présidentielle en 2017. Enfin, c'est ce qu'elle devrait officiellement annoncer le 4 juillet prochain à l'occasion d'un meeting qu'elle organise en Alsace, à Schiltigheim, tout près de Strasbourg. Michèle Alliot-Marie examinera par la suite s'il y a lieu qu'elle se présente d'abord à la primaire à droite comme les autres, ou bien si elle enjambe le processus. Alors deux raisons à cela. D'abord, elle estime que le processus de la primaire dénature l'esprit de la Ve République, voulu par le général de Gaulle, dont elle se déclare l'héritière. La présidentielle, précise-t-elle, a été pensée comme étant la rencontre entre un homme ou une femme et un peuple. Et puis l'autre raison avancée, qu'elle estime que cette primaire, dite de la droite et du centre, n'est pas véritablement équitable. Sarkozy utilise le parti pour faire campagne sans être candidat, explique-t-elle. Et puis le président du comité d'organisation, le député Thierry Solaire, est soutien officiel d'un autre candidat, Bruno Le Maire. Il s'agit là vraisemblablement d'une stratégie de la part de Michèle Alliot-Marie, stratégie pour tenter de se démarquer et ne pas apparaître comme le énième candidat à cette primaire. Ils sont déjà 13 à s'être déclarés candidats à la candidature. Et puis c'est sans doute aussi une manière de prévenir les quatre principaux challengers, Juppé, Fillon, Sarkozy, Le Maire, que s'ils ne l'aident pas à trouver les parrainages nécessaires, elle pourrait jouer les troubles faits en 2017. Mais ce qui pourrait les convaincre en premier lieu, c'est l'argument de la parité. S'il n'y avait que des hommes sur la photo de départ, ce ne serait pas vraiment un signe de modernité. Alors vous me direz, il y a bien Nadine Morano et Nathalie Kosciusko-Morizet, mais elles n'enthousiasment pas grand monde parmi les ténors de la droite. Dans ces conditions, la candidature de Michèle Alliot-Marie pourrait apparaître comme un moindre mal.
Merci beaucoup Stéphane Robert. Il y aura bien un référendum dimanche prochain, référendum consultatif, c'est une première en France. Il n'aura que valeur d'avis et il vient d'être validé par le Conseil d'État. Il s'agit du vote bien sûr autour du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Bonsoir Véronique Reberotte.
Bonsoir.
Les deux principales associations opposées à cette nouvelle implantation d'aéroport avaient donc saisi la plus haute juridiction administrative. Le Conseil d'État leur a donné tort, il valide le référendum qui se tiendra dimanche prochain. Ce sont les habitants de Loire-Atlantique qui vont être consultés. Reste une véritable ambiguïté, Véronique, soulevée d'ailleurs ce matin à l'audience et qui porte sur la formulation exacte de la question qui va être posée aux citoyens.
Oui, le rapporteur public a pourtant reconnu ce matin que la question était mal posée et imprécise. En lieu et place de la question donc posée dimanche prochain, êtes-vous favorable au transfert de l'aéroport de Nantes-Atlantique sur la commune de Notre-Dame-des-Landes ? Xavier de Lesquen aurait trouvé plus juste la question suivante. Il l'a formulé devant les juges du Conseil d'État. Êtes-vous favorable à la réalisation d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes tel que prévu par la déclaration d'utilité publique de 2008 ? Alors, question qui a le mérite d'être claire sur le fait qu'il s'agit bien d'un nouvel aéroport et non d'un transfert, puisque l'actuel aéroport de Nantes-Atlantique gardera une activité industrielle à la demande d'Airbus. Des avions décolleront encore à Nantes-Atlantique. Claire aussi sur le fait de savoir de quel projet d'aéroport on parle, celui en date de 2008 qui prévoit deux pistes à Notre-Dame-des-Landes ou celui que privilégie la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, qui ne prévoit qu'une seule piste, comme l'ont préconisé ses experts. Sur ce point, le Conseil d'État a estimé que la question posée dimanche prochain aux 968 000 électeurs de Loire-Atlantique n'était pourtant pas ambiguë. Le rapporteur public, parlant de questions évasives ce matin, estimait qu'elle avait aussi le mérite de faire référence à l'intelligence collective, que rien n'empêche, en cas de réponse positive à la consultation, oui au transfert, rien n'empêche la modification du projet, deux pistes ou une piste, ce sera à déterminer plus tard. Ce qui fait dire, bien sûr, aux avocats des opposants à Notre-Dame-des-Landes que dimanche, eh bien, les électeurs ne savent pas pour quel projet d'aéroport ils votent, ce qui est tout de même un peu étonnant.
Merci beaucoup Véronique Reberotte. On va encore parler transport en Ile-de-France cette fois avec ce casse-tête dont a hérité la nouvelle présidente de la région Valérie Pécresse. Il s'agit du pass Navigo à 70 euros, mesure sociale initiée par la gauche qui présidait l'Ile-de-France jusqu'en décembre 2015, mais qui n'a pas vraiment financé cette innovation. Valérie Pécresse, qui est membre, elle, du Parti Les Républicains, assure donc que le pass Navigo lui vaut un déficit de 300 millions d'euros et que le gouvernement socialiste ne joue pas le jeu. Bonsoir Maëlle Robert.
Bonsoir.
Une table ronde se tenait tout à l'heure sur la viabilité économique de ce pass à 70 euros et quelques pistes ont été esquissées.
Première possibilité pour financer le réseau à long terme et pour ne pas augmenter d'un coup le prix d'un pass Navigo, moduler les tarifs de l'abonnement en fonction de la fréquence des déplacements ou des moments de la journée. C'est ce que propose par exemple Marc Ivaldi. Il est professeur à l'école d'économie de Toulouse. Concrètement, cela consisterait à faire payer les usagers plus cher s'ils prennent les transports en heure de pointe. C'est d'ailleurs ce qui se passe déjà pour les trajets en avion ou en train. Deux bémols cependant, cela pénaliserait les salariés qui ne peuvent pas choisir leurs horaires de travail et cela nécessiterait de créer de nouvelles options sur les distributeurs de billets, autant de dépenses supplémentaires. Autre piste possible, adopter un système de tarification solidaire. Dans ce cas, le prix d'un billet ne dépend plus du statut, étudiant ou retraité, mais des revenus disponibles. Une idée défendue par le délégué général du syndicat des entreprises de transport urbain, UTP, Claude Fauchère, qui cite l'exemple de Strasbourg, une ville où les personnes en situation de précarité bénéficient d'une réduction de près de 90% sur leur abonnement. Un système qui a permis d'augmenter les recettes de près d'un million d'euros et de diminuer la fraude.
En Italie, c'est une véritable déculottée pour le parti de Matteo Renzi, qui a perdu deux grandes villes, la capitale et Turin, grand poumon économique de la péninsule. Revers pour ce second tour des élections municipales organisées hier, où le mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo a connu, lui, une belle progression. Bonsoir Mathilde Imberti.
Bonsoir.
Vous êtes donc notre correspondante à Rome, où la candidate du mouvement 5 étoiles, Virginia Raggi, a obtenu quand même 67% des suffrages. Victoire également de ce même mouvement à Turin. Et partout, en tout cas dans ces deux villes, la Ligue du Nord, qui est classée quand même à la droite de l'échiquier politique, a appelé ses électeurs à voter Mathilde pour le mouvement 5 étoiles.
Oui, absolument, aussi bien à Turin qu'à Rome. Alors à Turin, le résultat peut-être le plus significatif de la défaite du Parti démocrate. Chiara Appendino a en effet rassemblé autour d'elle les votes de la droite et de l'extrême droite. Elle était en retard sur son adversaire du Parti démocrate de 10 points au premier tour. Elle a renversé la tendance entre les deux tours. Matteo Salvini, le leader de la Ligue du Nord, a un ennemi, Matteo Renzi, et il avait déclaré durant la campagne « Je ne voterai jamais pour un candidat du Parti démocrate, même sous la torture ». Ensuite, les propositions du mouvement 5 étoiles dans un scrutin local étaient basées sur le bon sens, la bonne gestion au quotidien de la ville et ne contredisaient pas celles de la droite radicale. Sur les questions d'immigration aussi, le mouvement 5 étoiles se montre réticent à la politique d'ouverture du gouvernement italien actuel. L'électorat des périphéries en particulier a voté pour le mouvement 5 étoiles à Turin comme à Rome et il y a eu un report des voix de la droite extrême vers le mouvement populiste de Beppe Grillo. Mais attention, l'enseignement de ce second tour également en Italie, c'est la montée de l'abstention. Un électeur sur deux s'est déplacé pour aller voter hier à Rome.
Alors justement, parmi ceux qui ont voté, eh bien, ils ont voté quand même à 67% pour la candidate Virginia Raggi. Alors qu'est-ce qui attend cette toute jeune femme à la tête de la capitale ?
Bien d'abord, il va falloir qu'elle constitue une équipe. Elle avait promis de présenter ses adjoints avant le deuxième tour. Elle n'a jusqu'ici dévoilé que quatre noms, des gens de la société civile, certains marqués à droite, d'autres plus à gauche. Ensuite, sa première décision sera de commander un audit de la ville, car Rome est endettée à hauteur de 12 milliards d'euros. Pour le reste, elle a annoncé une révolution, je cite, « gentille ». Pas question de froisser les employés de la régie des transports romains. En abordant tout de suite la question des primes, le dossier délicat qui a valu en partie au précédent maire son impopularité. Virginia Raggi veut améliorer les transports, améliorer le ramassage des ordures, rénover les écoles publiques. Elle promet aussi de faire revenir la transparence et la légalité, ce qui n'est pas le moindre de ses défis, tant la corruption est ancrée dans le paysage romain. Elle n'a pas le droit à l'erreur, Virginia Raggi, elle le sait, car à travers elle, c'est la crédibilité du mouvement 5 étoiles qui est en jeu.
Mathilde Imberti, notre correspondante en direct de Rome, merci beaucoup. On va s'arrêter à présent sur la journée mondiale des réfugiés initiée par l'ONU qui permet de pointer une fois encore le sort que subissent 65 millions de personnes. Elles ont pris l'an dernier le chemin de l'exil, c'est un nouveau record absolu. Parmi ces réfugiés, 40 millions sont des déplacés internes qui fuient le moins loin possible de chez eux, de chez elles, des zones de combat intenables. Les Syriens représentent la moitié des nouveaux réfugiés qui ont migré en 2015, juste devant les Afghans. Et comme en écho d'ailleurs, trois attentats ont endeuillé aujourd'hui Kaboul et le nord-est de l'Afghanistan, faisant 25 morts, dont 14 Népalais qui travaillaient pour une compagnie de sécurité. En France, 80 000 nouvelles demandes d'asile l'an passé. C'est un chiffre en forte hausse dans un pays qui a juste de quoi loger un tiers de ses familles dans des conditions décentes. Bonsoir Marie-Pierre Véraud.
Bonsoir Karine.
C'est l'un des défis pour la France, effectivement. Comment accueillir ces demandeurs d'asile dans des CADA, des centres qui totalisent aujourd'hui tout juste 30 000 places d'accueil? Et vous revenez, Marie-Pierre, de Porcheville, dans les Yvelines, où sont hébergés une centaine de migrants.
Oui, c'est un bâtiment, ce CADA, un peu perdu dans les Yvelines, à 1,5 km de la gare la plus proche, celle de Limay. 97 places pour demandeurs d'asile, des chambres sobrement meublées, un espace pour laver son linge, une cuisine en bout de couloir. Brahim Afatash dirige ce centre géré par l'association Coalia.
On a à peu près une dizaine de nationalités différentes. Des jeunes qui nous viennent de Russie, d'Afrique noire, d'Afrique du Nord, de l'Asie, parce qu'on a des Bangladais, du Pakistan, de l'Afghanistan. On évite de créer des communautés. Par exemple, là dans ce couloir, ici vous avez une famille bangladaise. À côté, vous avez une famille russophone. Et de l'autre côté, vous avez une famille égyptienne. On veille sur l'équilibre communautaire pour ne pas créer des ghettos. On est dans une unité de vie constituée de 7 chambres. Dans chaque chambre, on trouve un ménage, soit un couple avec un enfant, soit une maman avec deux enfants. Quand il s'agit d'une grande famille, une famille de 5, on donne 2 chambres contiguës.
Et chacun a sa clé ?
Ils ont tous une clé. Tous les lieux sont sécurisés. On a des caméras vidéo dans la cage d'escalier. On a des caméras partout. Toutes les portes sont blindées, que ce soit celles des portes palières ou les portes des chambres. Et ils ont tous une seule clé qui ouvre à la fois la porte palière, la chambre, la cuisine. C'est une demande des résidents de sécuriser les lieux.
Ils avaient besoin de pouvoir verrouiller comme ça ?
Oui. Ce sont la plupart des personnes qui ont été persécutées, qui ont justement, avec la sécurité, il y a un problème. Donc en arrivant en France, c'est une hantise. Donc même si en France, on sait qu'on est en sécurité, les vieux démons viennent quand même les visiter de temps en temps, même s'il n'y a rien en réalité ici. Ça fait des années qu'on a l'expérience d'accompagner les demandeurs d'asile. Et on sait, on connaît leur histoire et on essaie quand même de les rassurer parce que certains, ça les empêche de dormir.
La sécurité donc enfin, mais la vie a du mal à reprendre. Si l'on se côtoie, il est rare de partager ses repas dans la cuisine commune, tout comme d'ailleurs son histoire de vie avec son voisin. Tous attendent un rendez-vous à l'OFPRA pour déposer sa demande d'asile, une décision, ou encore comme Gabriel qui est venu de République démocratique du Congo avec 2 de ses enfants, ou encore le résultat de l'appel devant la Cour nationale du droit d'asile en cas de rejet en première instance.
Les Irakiens, les Syriens... Quand ils viennent ici, par rapport à leur histoire, on leur répond directement. Mais nous, les Africains, quand on vient, toujours il y a beaucoup de rejets. Tout ce que tu vas parler, ils vont écouter, mais tu auras toujours la rejet. Mais nous, il y a la guerre, on est en train de massacrer là-bas au Bénin, à côté de Bukavu là-bas, même à Kinshasa, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Le gouvernement connaît ça très bien. Mais quand on vient ici pour parler tout ça, on ne vous donne pas les papiers.
Les papiers, une reconnaissance, c'est l'obsession. Ici, le temps est comme suspendu et il est difficile de s'abstraire de cette attente, ne serait-ce que pour s'investir dans les cours de langue. Le CADA propose bien des cours de français, mais beaucoup ne sont pas prêts, reconnaît Brahim Afatash. Ils sont ici, attendant que l'on décide de leur vie.
Merci beaucoup Marie-Pierre Véraud. En bref, encore à Fallujah, en Irak, les forces du régime irakien continuent de progresser dans le fief tenu par les djihadistes de Daesh. Les civils fuient en grand nombre sur place, 30 000 civils. 30 000 réfugiés ont donc quitté cette ville ces dernières heures et les ONG redoutent un désastre humanitaire. Fermé les guillemets. On va partir maintenant pour la Turquie, le pays qui, soit dit au passage, accueille aujourd'hui le plus grand nombre de réfugiés dans le monde, soit 2,5 millions de personnes. Mais on va parler ce soir d'un tout autre sujet, le sort réservé aux journalistes dans ce pays et singulièrement aux représentants de Reporters sans frontières. Bonsoir Eric Bigala.
Bonsoir Tara.
Ce journaliste turc qui représente donc l'association RSF depuis 1995 vient d'être inculpé pour propagande terroriste et avec 2 intellectuels, il a été placé en détention provisoire.
Oui, Erol Önderoğlu, le représentant de RSF en Turquie, et 2 intellectuels ont été inculpés cet après-midi de propagande terroriste et incarcérés dans la foulée. Tous les 3 avaient à tour de rôle, en mai dernier, fait office de rédacteur en chef d'un jour en soutien au quotidien pro-kurde Özgür Gündem, lui-même souvent victime et depuis des années d'attaques de la justice turque, l'accusant tout le temps de propagande terroriste. Et à vrai dire, ces mises en accusation se multiplient en Turquie en ce moment. visant journalistes, intellectuels ou même hommes politiques, critiques du pouvoir de Recep Tayyip Erdogan. Au moment même où Erol Önderoğlu et ses deux collègues étaient inculpés, la chaîne de télévision Can Erzincan TV, l'une des dernières qui osait quelques critiques à l'endroit d'Erdogan, vient d'annoncer qu'elle serait elle aussi forcée de quitter le bouquet satellite Turksat le 20 juillet prochain. La semaine dernière, le RTÜK, le Conseil suprême de la radio et télévision, sanctionnait financièrement 7 stations de télévision au motif qu'elles avaient simplement transmis en direct ou retransmis les débats du groupe parlementaire d'opposition CHP et que ces débats pouvaient être considérés comme insultants pour Erdogan. On ne compte plus d'ailleurs le nombre de procédures enclenchées pour insultes au président Erdogan. Du côté des hommes politiques, les immunités parlementaires de 148 députés ont été levées le mois dernier, essentiellement des membres de l'opposition ou des Kurdes, permettant à tous ces élus d'être dorénavant poursuivis pour terrorisme. D'ailleurs, pour bien montrer en quelle estime les élus de la République turque sont dorénavant tenus, mardi dernier, Yiğit Bulut, le principal conseiller économique d'Erdogan, n'hésitait pas à annoncer publiquement et le plus sérieusement du monde, je le cite, qu'avec un président aussi formidable à la tête du pays, il n'était désormais plus nécessaire et pour qui que ce soit de s'engager en politique.
Merci beaucoup Eric Biegala. Un petit mot encore pour vous dire que la Cour suprême aux États-Unis, après le massacre d'Orlando, a validé deux législations prises par les États de New York et du Connecticut, deux politiques qui visent à interdire les fusils d'assaut dans ces deux États. Le temps en France demain, une France coupée en deux, beaucoup de nuages au nord, un temps estival au sud. À 22h, ce sera Stanislas Vazak pour les prochaines informations.